Voilà. Bonjour, bien-aimé.
Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Les deux derniers chants que nous avons chantés pour louer le Seigneur, c'est des chants qui m'ont parlé personnellement. La louange à Dieu est une richesse pour le chrétien. C'est vrai que quand nous louons Dieu personnellement, il nous parle comme cette louange que j'ai écoutée ce matin en préparant ce culte. Mais la louange de la communauté, la louange de l'Église, est encore une louange qui a une qualité autre. Et je bénis Dieu qui nous permet de vivre ce temps ensemble dans cette louange à Dieu. Je désire entendre ta voix. Est-ce que c'est ce que tu désires ce matin? Je crois que si tu t'es connecté, oui, c'est ce que tu désires ce matin. Tu désires entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu se fait entendre, n'est-ce pas? Comme Eric l'a indiqué, le Seigneur parle. C'est lui qui décide comment il parle. Mais nous savons que ce qu'il a décidé de façon institutionnelle, la façon dont il a décidé de nous parler de façon institutionnelle, c'est par la Bible, la parole de Dieu. Après, les autres mots dans lesquels il nous parle sont annexés à la parole de Dieu. Parce que si nous voulons vérifier, si nous voulons juger si ce que nous avons entendu autre part ou d'une autre façon, dans une autre méthode, est de Dieu, le critère, c'est la Bible. C'est cette parole qui nous donne les outils pour apprécier comment Dieu se révèle à nous. Nous avions, le dimanche 3 mai, commencé avec un autre apôtre. Pendant plusieurs dimanches, nous avions vu avec l'apôtre Jean, le livre de l'Apocalypse. Donc, j'essaie aussi, dans les prédications, en tout cas, ce que Dieu me met à cœur, c'est de vous faire visiter aussi les apôtres. Il n'y a pas que l'apôtre Paul, parce qu'on sait que les chrétiens évangéliques sont très habitués à toutes les lettres de l'apôtre Paul, parce qu'il en a écrit le plus.
Il en a écrit 12, mais il y a l'apôtre Pierre aussi qui a écrit, il y a Jean qui a écrit. Il y a Jude, il y a Jacques, et nous essayons dans notre culture biblique, dans notre enrichissement de la parole de Dieu, d'essayer de voir comment Dieu, au travers ces différents auteurs, finalement, a dit quelque chose qui reste complémentaire, unique et bien coordonné. Et nous avions commencé à voir avec l'apôtre Pierre une invitation à veiller contre le relâchement, à ne pas nous endormir, à ne pas laisser notre zèle s'éteindre. Dans cette période particulière, n'est-ce pas? Difficile. On peut dire que c'est une période d'épreuve. Dieu laisse le monde être éprouvé. Pourquoi? Pour l'instant, chacun de nous a la raison pour laquelle il le laisse faire. Certains pensent que c'est un jugement de Dieu. Il y a des appuis dans la parole de Dieu qui disent ça, bien sûr. Certains pensent que Dieu laisse les hommes, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, voir leurs propres limites par rapport à un monde pécheur où des choses peuvent se déclencher sans que lui ne soit l'auteur, mais il laisse faire pour que les hommes voient leur fragilité et qu'ils puissent revenir à Dieu. D'autres y voient une invitation à l'Église à se renouveler, une invitation aux chrétiens à se réveiller, à se rapprocher de leur Dieu, à se revisiter où ils en sont. Et si nous ne prenons pas toutes ces interprétations en compte, ce temps de confinement qui continue du reste d'une façon ou d'une autre ne nous sera pas utile. Parce que nous sortirons peut-être trop gros spirituellement, c'est-à-dire que nous aurons tellement regardé des vidéos chrétiennes, nous serions allés sur tellement de sites que finalement si on nous demandait qu'est-ce que tu as retenu de tout cela, franchement on serait un peu embêté parce qu'on aura pris tout et un peu n'importe quoi. Peut-être que certains, au bout de 4 semaines, ont été lassés de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'ils ont pu faire. Et finalement, il y a une forme de lassitude qui s'est installée dans leur vie chrétienne. Il y a une forme aussi de... Quand ça dure trop, ça commence à être peut-être une forme de doute. On commence à douter des choses, on commence à remettre en cause certains nombres de choses. Et notre foi peut prendre un coup. Surtout que nous n'avons pas une communion fraternelle physique, que nous ne pouvons plus nous rassembler dimanche ou les mardis pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous donner les nouvelles directement. Vous savez que la communion, cette chaleur de la communion, c'est pour ça que Jésus a institué l'Église, parce qu'elle a son utilité spirituelle. Elle nous manque. Et je pense qu'il faut le dire. elle nous manque. C'est un manque que Dieu laisse faire. Mais il ne faut pas que ce manque nous entraîne dans le sommeil, nous entraîne dans le relâchement. Et nous avons vu cela le dimanche 3 mai. Veillez contre le relâchement, n'est-ce pas? Et j'aimerais continuer toujours sur ce texte hein, de 2 Pierre 1, 3 à 10. Je vais essayer de vous projeter des choses. Hein. Mais vous me connaissez, vous qui êtes dans l'église avec moi, je suis plus oral que autre chose. Donc, parfois, le texte ne va pas suivre forcément ce que je suis en train de dire. Donc, ne vous en faites pas, écoutez-moi. Et si je vois que c'est trop compliqué, j'annulerai ce que je vous montre hein, sur l'écran. OK? Donc, je vous invite vraiment pour les semaines qui viennent à lire les épîtres de Pierre. Hein. Je vous invite à lire les épîtres de Pierre. Elles sont très édifiantes. Et d'autant plus que dimanche dernier, la prédication d'Émile s'est axée sur Pierre, sur le caractère de Pierre. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans la séquence de l'apôtre Pierre. Et c'est utile que nous puissions le visiter pour qu'il nous parle. Pierre, dans ses deux épîtres, on a un accent un peu comme un testament, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, dans le texte qu'on a lu la dernière fois qu'on va relire aujourd'hui à la fin, « Je sais que mes jours sont comptés sur la terre, que Dieu m'a révélé qu'il va m'appeler auprès de lui, donc que je vais mourir. » Donc on sent que l'apôtre Pierre, quand il dit ses derniers mots, quand il laisse ses épîtres, il les laisse avec une force testamentaire, n'est-ce pas? Dans la première épître, comme je l'ai écrit ici, comme vous le voyez, voilà, il s'adresse aux croyants persécutés hein, dans le monde entier, en tout cas là où il y avait des églises à cette époque-là. Et puis dans cette deuxième épître, il s'adresse aux chrétiens, surtout pour les réveiller, pour les mettre en garde contre le relâchement. Okay? Et que Dieu nous aide à être encouragés. Alors si pendant ces temps-ci, tu sens qu'il y a un sommeil qui venait, peut-être ce message, il est pour toi, de façon spéciale. Moi, en tout cas, je sais qu'à un moment donné, de ces 8 semaines de confinement, voilà, ça a commencé à faire long pour moi. Et je me suis vu quelquefois un peu dans une sphère un peu, avec une oppression un peu négative. Et j'ai dû réagir. Et on a dû réagir en couple à la maison. On a dû se réveiller, se remettre sur le chemin de la non somnolence. Alors, j'aimerais lire le texte avec vous. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 10. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Voilà. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance. Dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre, dans les derniers versets 12 à 14, il dit, c'est pour ça que je ne me lâche pas de vous le dire, et je vous le rappellerai encore jusqu'à mon dernier souffle, pour que même quand je ne serai pas là, vous restez éveillés dans le Seigneur. Amen. Alors, ce matin, que Dieu, par son esprit, parle à chacun de nous. Quelle est votre vocation? Quelle est notre vocation? Quel est notre appel? Quelle est notre élection? Notre vocation et d'abord notre élection dépend de la pure grâce de Dieu. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Le choix qui fait que nous sommes là en tant que chrétiens, enfants de Dieu, c'est un choix qui a dépendu de Dieu. C'est Dieu qui a opéré ce choix. Nous n'étions pas des méritants. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a fait ce sacrifice. Notre grâce, notre salut dépend de la pure grâce de Dieu. C'est un Dieu qui sait que nous ne sommes pas méritants, que quels que soient les efforts que nous allons pouvoir faire, même le plus pur d'entre nous aura toujours au moins 0,0,1% de péché. Et ça le disqualifie du royaume de Dieu. En plus, le texte biblique ne dit pas qu'il y en a qui sont sans péché. Romains 3, 23 dit « Car tous sont péchés et sont tous privés de la gloire de Dieu. » Il n'y en a même pas un seul. Donc nous sommes disqualifiés. Alors que nous voyons tant de bonnes actions dans le monde, alors que nous voyons tant d'altruisme dans le monde, alors que nous voyons des gens très généreux, mais parce que derrière toute cette générosité, nous sommes tous malades. Un missionnaire du 18e, 19e siècle avait pris une image, une fois, l'image d'une pandémie. Il dit, nous sommes malades comme quand une pandémie frappe un peuple. Encore, nos nations dites civilisées ont pu nous immuniser, de sorte que le taux de contamination reste limité malgré le nombre de morts importants. Mais imaginez-vous les temps passés où il n'y avait pas cette immunité, où il n'y avait pas ce développement de la médecine. 16e siècle, on appelait ça la peste noire et ça a décimé pas mal parce qu'on ne pouvait pas se protéger contre cette peste noire. Et le péché est comme la peste noire. Le péché qui nous a atteints contamine tous ceux qui viennent au monde. Nous sommes tous contaminés par le péché. C'est comme si nous faisions le test du péché, tout le monde serait positif au test du péché. Tout le monde serait positif. Quelle que soit notre bonne conduite, quelle que soit, et même on nous a dit dans cette pandémie que nous sommes parfois des malades asymptomatiques, c'est-à-dire que nous avons le virus, mais nous n'avons pas les symptômes. Bah, le péché, non seulement nous sommes tous touchés par lui, mais les symptômes, ils sont là. Ils sont là déjà dans nos pensées. C'est ce que nous ne voyons pas. Ils sont là dans nos paroles, dans nos actes. Bref, le péché nous a atteints. Et Dieu a fait cette grâce. Et il dit, regardez comment Dieu vous a fait grâce, bien-aimé. Et que cette grâce vous parle. Que cette grâce vous parle au point qu'elle produise maintenant des fruits. Donc si ce n'est pas grâce que Dieu nous a sauvés, si ce n'est pas pure grâce, les fruits qui doivent découler de cette grâce sont la preuve et la garantie de notre appartenance à Jésus. Comment peux-tu savoir que tu es enfant de Dieu? Ben, la Bible dit, et c'est Jésus qui le disait dans les évangiles, on reconnaîtra un arbre par son fruit. La garantie que tu as, la preuve que tu as d'être un enfant de Dieu, c'est la qualité de vie, comment elle progresse en toi. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre disait, oui, la foi vous l'avez. Dieu vous a fait grâce et vous avez répondu par la foi, toutefois. Maintenant que cette confiance est là, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, montrez-le, vivez-le intensément, grandissez dans cette nouvelle vie que Dieu vous donne. Un enfant ne laisse pas toujours bébé. Nous sommes nés comme des bébés, mais nous ne sommes pas des bébés. Enfin, nous ne sommes plus des bébés. Nous avons grandi, nous avons étape après étape, dans notre croissance, nous avons évolué, progressé. Et l'encouragement de l'apôtre Pierre, c'est de dire, mais progressez aussi dans votre vie chrétienne. Progressez dans votre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il dit, pour cette même raison, pour cette grâce de Dieu, et parce que cette grâce de Dieu doit avoir des effets concrets dans votre vie, faites tous vos efforts. Il en appelle aux croyants, il en appelle aux chrétiens. Dieu a fait sa part. Quelque part, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Le salut, vous ne pouviez pas l'acheter. Vous ne pouvez même pas l'acquérir. Dieu l'a acquis pour vous en donnant son fils à la croix. La Bible dit que ça a coûté la vie du fils de Dieu. C'est un prix inestimable. Parce qu'une vie humaine n'a pas de prix. à plus forte raison, la vie du Fils de Dieu. Il dit, si donc Dieu a fait sa part et qu'il a activé en vous, maintenant, parce que vous étiez mort, vous êtes venu à la vie, il a activé en vous tout ce qui est utile pour vivre le bien que lui, il a prévu d'avance, bah, vivez ce bien-là. Marchez dans ces bonnes œuvres-là, manifestez les fruits de l'Esprit, parce que désormais, vous qui étiez morts, vous êtes ressuscité avec le Christ. Vous qui n'aviez pas la capacité de marcher selon la parole de Dieu, bah, parce que Jésus-Christ est rentré dans votre vie, à nouveau vous avez cette capacité-là. Il dit, c'est pour cela que vous pouvez faire ces efforts-là. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, à la vraie connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour, ces choses. Faites vos efforts. Et dimanche 3 mai, et le dimanche dernier avec Émile, c'était la question de comment ces choses progressent dans ma vie? Comment ces choses progressent dans ta vie, mon frère? Comment ces choses progressent dans ta vie, ma sœur? Comment ces choses progressent dans la vie de notre Église? Et il dira à partir du verset 8, et c'est le thème de notre, après ce rappel, c'est le thème de notre méditation de ce matin. Il dira à partir du verset 8, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Voilà. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. La croissance chrétienne aboutit à une efficacité et à une productivité spirituelle. Les mots qui ont été traduits du grec, qui dit ces qualités, si elles sont en vous, ces qualités, si vous les possédez, il dit en les possédant. Donc il ne met même pas la condition qu'il dit ici, ce n'est même pas une condition que vous l'avez ou l'avez pas, il dit vous les avez. Ces qualités, elles sont en vous. Ces qualités spirituelles appartiennent aux chrétiens. C'est cette vertu dont nous avons parlé. Les chrétiens doivent toutefois faire plus que simplement les posséder. On peut posséder quelque chose sans le mettre en valeur. Et il dit, et l'apôtre Pierre nous dit, faites attention, certainement vous les possédez, mais est-ce que vous les mettez en valeur? N'est-ce pas? On a souvent des gens qui ont hérité de quelque chose ou qui ont acheté quelque chose de valeur, mais qui ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont acheté ou qui ne connaissent pas la valeur de l'héritage qu'ils ont reçu et donc qui ne savent pas le mettre en valeur. Et l'apôtre Pierre dit ici, vous avez reçu ces choses, mettez-les en valeur. Une spiritualité efficace et productive se développe à mesure que ces qualités que nous possédons, nous abondons dans ces qualités, c'est-à-dire que nous laissons ces qualités prendre le dessus sur les autres choses. Donc c'est quand même une invitation à considérer quelque chose d'intentionnel, c'est-à-dire que je suis en Christ, Dieu m'a dit ces choses, c'est des promesses de Dieu, maintenant je dois décider, en comptant bien sûr sur le Saint-Esprit, de grandir dans ces choses, de les laisser me conduire, de les laisser me dominer, puisque si elles me dominent, bah, elles me font du bien, ces qualités-là. Il doit avoir une croissance dans la grâce. Les croyants qui ne font pas de progrès dans ces sept domaines sont oisifs, c'est-à-dire qu'ils sont inefficaces, ils sont inutiles, ils sont stériles dans leur connaissance, dans leur pleine connaissance personnelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La différence ici, c'est pas que c'est pas des chrétiens, c'est des chrétiens. C'est pas que si nous n'avons pas ces choses, nous ne sommes pas chrétiens, puisque la foi n'est pas, le salut n'est pas lié à nos œuvres. C'est la grâce de Dieu. Donc nous sommes sauvés par grâce. Mais il dit, ce que Dieu attend de vous après avoir lui fait sa part, c'est que vous puissiez continuer de grandir. Vous puissiez continuer de prospérer spirituellement. Et c'est ça qu'il dit. Et donc c'est un encouragement. Et cet encouragement, il nous le donne. Et nous devons regarder cela avec cette grâce de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens connaissent le Seigneur pour être sauvés, mais ne manifestent pas le fruit de l'esprit et ne font pas de progrès dans leur vie spirituelle. Ils demeurent des enfants en Christ qui ont encore besoin de l'aide spirituelle. Et nous verrons ce texte d'Hébreux chapitre 5 tout à l'heure. Mais comme l'apôtre Pierre le conseille fortement, les croyants devraient croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devrions croître. C'est une exhortation, mais une exhortation qui s'appuie sur des faits réels. Nous avons les potentialités pour grandir dans ces choses. Dieu a activé en nous tout ce qui est nécessaire pour grandir dans ces choses. Donc, nous pouvons grandir dans ces choses. Verset 9, il dit, qu'arrive-t-il ? Que sont ceux qui ne grandissent pas dans ces choses ? Comment considérer un chrétien qui ne fait pas de progrès ? Il dit, c'est comme un myope, n'est-ce pas ? C'est un chrétien charnel, c'est un chrétien aveugle. Il ne voit pas loin. C'est le mot myopie. Il voit, mais il ne voit pas. Donc, il n'est pas totalement aveugle, mais sa vision n'est pas tout à fait nette. Et si la vision de quelqu'un n'est pas nette, le risque, c'est qu'en avançant, en marchant, il peut se prendre des obstacles parce qu'il ne les voit pas bien. Parce qu'il apprécie très mal les distances à cause de sa myopie, il peut se faire mal. Donc, il va marcher, bien sûr, mais sa marche va être tellement entachée d'obstacles qu'il ne pourra pas enjamber ou auquel il ne pourra pas échapper parce qu'il est myope, parce que sa vision n'est pas claire. Il dit, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Le croyant qui est spirituellement myope ne glorifie pas la grâce de Christ, puisque sa vie ne continue pas de manifester les qualités que nous voyons dans ce chapitre 1 de cette deuxième lettre de Pierre. C'est cette vertu. Une telle personne, un tel chrétien, malheureusement, a mis en oubli que Jésus-Christ a payé le prix et que Jésus-Christ l'a purifié et qu'il doit continuer de marcher dans cette sanctification. Il a oublié, malheureusement, tout l'effort que Dieu a fait et comment dans les premiers temps de sa vie chrétienne, il a progressé de façon fulgurante. Il a oublié. Et l'apôtre Pierre dit, attention, attention. Et on a un écho de ça, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, où c'est adressé plus à une église qu'à un individu. Tu as perdu ton premier amour. Et nous ne voulons pas être dans cette condition-là. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Quand on lit ce temps, on dit, oulala, Seigneur, est-ce que c'est vrai qu'on ne tombera jamais? Parce que quand même, voilà, la barre est trop haute. Donc, comment comprendre cet aspect de ne tomber jamais? Si nous nous appliquons, si nous faisons tous nos efforts, si nous appliquons à affermir notre vocation, à affermir notre élection, c'est-à-dire le fait que Dieu nous a choisis, si nous appliquons à être reconnaissants de cette confiance que Dieu nous a donnée, parce qu'il nous a choisis, alors que nous n'étions pas parfaits, cette position que Dieu nous a donnée, c'est une grâce. Et nous devons la considérer comme telle. Et donc nous devons nous appliquer à affermir cette position-là. Comment l'affermir ? Par une conduite pieuse. C'est quoi la conduite pieuse ? C'est cette conduite qui marche selon les recommandations de la parole de Dieu. N'est-ce pas ? C'est cette conduite qui nous garantit que nous sommes en Christ, puisque au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons de par les efforts que nous faisons suite à l'écoute, à l'étude, à la méditation de la parole de Dieu, nous voyons les changements que Dieu produit en nous. Par sa vie pieuse et sa croissance dans les vertus mentionnées dans ce chapitre, le croyant montre qu'il est un élu de Dieu, qu'il est un enfant de Dieu. que Dieu nous aide. Et nous en avons bien besoin. Celui qui fait des progrès en Christ ne connaîtra certainement pas aussi facilement des revers dans sa vie spirituelle que celui qui est myope et qui manque de maturité. Voilà comment il faut comprendre la fin du verset 10. Quand il dit, vous ne tomberez jamais, c'est-à-dire que puisque vous allez progresser dans ces qualités, puisque au fur et à mesure que vous allez marcher dans ces qualités, votre vue va s'améliorer, votre vision va s'améliorer, votre comportement va s'améliorer et vous serez à même de discerner les pièges de l'ennemi, de discerner les obstacles qui ne sont pas de Dieu, de discerner les épreuves dans lesquelles vous êtes et de faire confiance à Dieu. Mais celui qui ne grandit pas dans ces choses, il ne peut pas tout à fait bien discerner les pièges de l'ennemi. Il n'arrive pas à discerner les obstacles qui se mettent devant lui. Quand il est dans l'épreuve, malheureusement, il ne peut pas discerner quelle est celle qui vient de Dieu, quelle est celle qui ne vient pas de Dieu. Et parfois, il est dans la récrimination vis-à-vis de Dieu. Il n'avance pas beaucoup. Il fait du surplace. Que Dieu nous aide dans cette maturité. C'est pour cela que nous vous encourageons depuis bien longtemps à vous équiper spirituellement par rapport à la parole de Dieu. Toutes ces choses, tous ces efforts, c'est aussi les efforts d'étudier la parole, cultiver le fait que Christ habite dans notre cœur. Éphésiens 3, 14 à 21. Cultiver des saines habitudes dans ma vie personnelle. Cultiver des saines habitudes dans mon foyer, dans mon couple. Mon foyer, c'est plus large que mon couple. Ce n'est pas moi et madame, c'est les enfants. C'est tous ceux qui sont dans ma maisonnée ou tous ceux dont j'ai la responsabilité. Cultiver des saines habitudes dans la famille de l'Église. Comment nous vivons notre Église de Créteil? Comment nous vivons dans l'Église? Comment nous nous impliquons dans l'Église? Quelle est notre participation à l'Église? Parce que ça aussi, ça nous apporte une qualité. N'est-ce pas que l'une des qualités que nous avons vues, dans lesquelles nous avons fait des efforts, c'est quoi? C'est la piété, n'est-ce pas? La piété, l'attachement à Dieu. Et la piété passe par la participation à l'Église. C'est un aspect de la piété. Et cet aspect, il est très important. Et j'y reviendrai dans la prédication de la Pentecôte. Dans 2 semaines. Cultiver des saines habitudes dans le travail. Et 1 Thessaloniciens le dit bien, parce que nous avons là-bas aussi un témoignage de vie à rendre. Ce qui m'intéresse quand nous faisons ces études dans ces livrets ITA, surtout celui-là, cultiver, c'est l'idée de cultiver. Vous savez, cultiver, c'est prendre soin. Moi, je suis pas, j'ai pas de plantes. J'ai des plantes synthétiques, bien sûr, mais ceux qui ont des plantes, ils savent ce que c'est. On prend soin d'une plante. Ceux qui ont des cultures savent ce que c'est. Je suis issu d'une population paysanne, agricole, donc j'ai été confronté à la culture. Il y a toute une étape. Et le mot cultiver ici est important. Ça veut dire prendre soin. Il y a des étapes. Parfois, nous sommes fatigués. Parfois, nous sommes lassés. Parfois, nous sommes paresseux. Et nous ne prenons plus soin. Ceux qui ont des jardins savent que si tu relâches, ton jardin, tu vas le trouver dans un sacré état. Si ta plante, tu relâches et qu'elle n'a pas d'eau, comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines à l'église, parce qu'on a des plantes vertes, voilà, et qu'on était tous confinés, certaines feuilles ont commencé à pâlir. Et certains sont passés, ils l'ont vu, ils ont commencé à donner de l'eau. Donc, la culture, c'est ça. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous avons besoin de prendre conscience de ces choses-là. Cultiver, ces saines habitudes sont importantes, n'est-ce pas? Ton cœur doit être transformé. Toujours, 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 toujours. Ton caractère, ton comportement, tes habitudes, tes façons de faire. Je disais dans une formation que j'ai donnée ces dernières semaines dans un petit groupe, en dehors de notre église, évaluez à chaque fois ce que vous appelez vos valeurs. Est-ce qu'elles sont toujours conformes à la parole de Dieu? Même si vous avez hérité de votre famille, de votre papa, de votre maman, ce qui est une bonne chose, il faut vérifier si ces valeurs sont conformes à la parole de Dieu. C'est ça, grandir aussi. Parce qu'à force d'avoir des années de vie chrétienne, parfois, on a fait l'hypothèse que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, forcément, puisque nous avons une culture biblique, est ancré dans la parole de Dieu. Et que peut-être c'est là que nous avons à faire attention. Peut-être que c'est là que nous avons à faire attention. Dans le foyer, c'est pareil. Et vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, Caroline et moi. La question des couples, la question des relations parents-enfants. la question des relations entre les fratries, même quand nous sommes adultes. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler avec tel frère, telle sœur de ma famille? Dieu dit, pardonnez-vous les uns les autres. Comment je progresse dessus aussi? Peut-être qu'il y a encore des conflits dans ta famille, avec ton frère, avec ta sœur, peut-être qu'avec ta mère, peut-être avec ton père. Comment est-ce que tu règles ces choses? Ça ne peut pas rester en l'état, ce n'est pas possible. Un chrétien doit demander à Dieu la grâce d'outrepasser ça. Tant que cela dépend de toi, si ça dépend de l'autre, tu ne peux que faire que prier. Mais tant que ça dépend de toi et que tu as fait ce qu'il fallait faire, bah, tu restes dans la prière pour que le Seigneur travaille aussi dans la vie de l'autre. Mais rassure-toi que toi, tu as fait ta part. Dans l'église, pareil. Mais j'ai dit, j'y reviendrai, donc je ne développe pas. Au travail, en tant que disciple de Christ, les chrétiens ont tendance à séparer leur vie du monde, leur vie de leur entourage, de leur domaine professionnel, de leur vie spirituelle. Non, notre vie spirituelle est inscrite dans tous ces domaines de notre vie. Au travail aussi, ça fait partie de ta vie spirituelle. Parce que Dieu dit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc ce travail, quelque part, est une bénédiction de Dieu. Même parfois si c'est éprouvant, même parfois si c'est écrasant. Et c'est là que tu dois demander la grâce de Dieu pour ne pas être toujours dans un état qui donne une mauvaise image du chrétien, de ce que tu es. Et tu as la capacité de le faire, puisque la Bible dit, fais tous vos efforts, que Dieu nous aide. Je sais que dans le domaine professionnel, tout n'est pas simple. Je sais que dans le domaine professionnel, parfois c'est comme un panier de crabes, c'est très compliqué. Les relations entre les collègues, entre la hiérarchie, ça peut être écrasant, ça peut être même comme une pression de l'ennemi. Mais Dieu sait que tu vis ça. Dieu sait que dans cette épreuve, c'est là aussi que la piété, la prière, le partage, la prière communautaire peut aider. Et Dieu, dans sa grâce, peut te sortir de là et te mener dans une autre structure, dans une autre administration. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. J'insiste dessus, on a déjà travaillé ces classeurs, ces livrets, mais c'est important alors que nous parlons de, voilà, faites tous vos efforts. Ne relâchez pas sur ces questions d'apprentissage de la parole de Dieu. Je vous en prie, ne relâchons pas. Enfin, pour terminer, moi je sais que par rapport à l'Église, par rapport à ma vie chrétienne, l'une des choses que Dieu m'a donné d'aimer, c'est d'aimer méditer, lire, approfondir ma connaissance de sa parole. À chaque fois que je suis dedans, je sais que je connais mon Dieu un peu plus et que les doutes, que ce qui peut me faire comme une oppression, s'éloigne de moi et me donne de redécouvrir mon Dieu et ça me donne l'envie de partager avec les chrétiens l'amour de la parole de Dieu. Mais pas un amour de la parole de Dieu qui reste dans la tête, mais qui descend dans nos membres et qui se vit dans nos caractères, dans nos comportements, dans nos habitudes, dans nos relations. Amen. Enfin, pour terminer, j'aimerais insister sur ce verset 8. Il dit, car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse, donc il y a une invitation, qu'elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la connaissance de Jésus nous transforme et nous transcende. Et à la fin de cette péricope, au verset 11, il dit, « Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » L'ultime récompense d'une vie qui fait des progrès et qui honore Dieu, c'est le fait d'être reçu personnellement par le Seigneur, par le Sauveur dans son royaume. L'entrée vous sera largement accordée, même si déjà par la grâce de Dieu, par le salut, nous y sommes déjà. Mais la persévérance encore donne un goût un peu plus. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, sera accordée avec éclat. Ce sera un chaleureux accueil. Dans cette période de pandémie, j'ai eu une période où j'avais commencé à voir des symptômes de cette pandémie. Des petits maux de gorge, les soirs, quand les soirs tombaient, des fièvres, mais pas vraiment des fièvres, mais 37, 37,5, 37,8. Et j'ai commencé à être anxieux. Vous savez que cette maladie, elle est plus anxiogène qu'autre chose. Dès que vous avez quelques symptômes, ça commence à, à vous mettre en panique. Ouh là là, j'ai cette pandémie, j'ai cette maladie, je vais contaminer mes enfants, mon épouse, et puis l'église, voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis passé par cette phase un peu voilà, compliquée. Et c'est en revenant sur la parole de Dieu, cette perspective de notre espérance chrétienne qui m'a renouvelé. Parce que que je sois ici, par amour pour Dieu, par amour pour ceux que j'aime, ou que je sois auprès de Dieu, demeure, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre l'ont dit, demeure, c'est d'être auprès de Dieu. Et même si la mort, l'apôtre Paul le dit, devait me prendre, je sais que je l'ai transmis à ceux que j'aime le meilleur et que moi, par la grâce de Dieu, je serai aussi auprès du Seigneur dans le meilleur. Et du coup, cette anxiété est partie et je me suis senti mieux. Et après, c'est vrai que j'ai pris rendez-vous avec notre médecin. J'ai fait le test de la pandémie. C'était négatif. Voilà. Mais je pense que Dieu m'a fait vivre cette expérience pour que dans ce temps aussi, je puisse être sensible à ceux qui vont traverser cette maladie ou à ceux qui vont vivre cette angoisse. Et le Seigneur m'a permis de faire cette expérience, cette angoisse, cette maladie, pour que je puisse en témoigner. Mais surtout que je puisse témoigner que c'est sa parole qui restaure. C'est cette vision qui donne. C'est cette parole puissante de l'Esprit qui nous restaure, n'est-ce pas? Alors, continuons de travailler à notre salut, bien-aimé. As-tu un plan? C'était le titre de mon message. As-tu un plan d'action pour ton développement spirituel? Si tu l'as, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas, on en a déjà parlé pour ceux qui étaient à la réunion le mardi. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, il y a tous ces livrets ITA qu'on met en place pour que tu apprennes à grandir avec Dieu. Et c'est progressif, c'est très logique et ça aide. Et les versets que nous avons vus, nous, la dernière fois, à l'étude du soir, qui étaient des versets très forts, et c'est par ces deux versets que je veux terminer, Hébreux 5, 11 à 14, je ne le lirai pas en entier, mais l'apôtre dit, si vous ne grandissez plus dans votre foi, si vous n'aimez pas étudier la parole de Dieu, si vous n'aimez pas grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, vous prenez le risque de régresser et de redevenir des bébés spirituels. Et ce n'est pas à cela que Dieu vous a appelé. Il dit que ce à quoi Dieu vous a appelé, c'est d'être des hommes et des femmes matures. Et nous voulons être des hommes et des femmes matures. Et c'est pour cela que je termine avec 1 Pierre 2, 1 à 3. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie, toute méchanceté, toute médisance du moins. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Bien-aimé, si tu as goûté comment le Seigneur est bon, continue de rester dans cette bonté de Dieu. Prions. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux te glorifier. Je veux te lever en dignité. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui est le maître de l'ouvrage, le maître de l'œuvre. L'Église est en œuvre. Nos vies sont la grâce de ta manifestation. Nous voulons grandir. Nous voulons continuer de nous développer. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de faire tous nos efforts pour que nous brillions comme des flambeaux dans une génération qui se perd. Que dans ce temps difficile, que les vies de mes frères et de mes sœurs soient des vies réveillées, éveillées, puissamment remplies, encouragées par la présence de notre Dieu et par les efforts dans notre caractère, dans notre conduite, dans nos habitudes, dans nos pensées, que tu nous aides. Nous avons besoin de toi. Bénis-nous tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen.